Merci Rémi, très heureux de vous retrouver sur Présence en direct de Cahors sous ce beau soleil. Pendant cette nouvelle heure, vos émissions. Dans 5 minutes, le rattrapage de l'interview de ce matin avec Isabelle O'Neill qui reçoit François Chollet, coordinateur en charge de la mobilisation de la mairie de Toulouse face à l'épidémie de Covid-19. Dans à peu près 20 minutes, nous retrouverons Emmanuel Pella dans Église Actualité. En fin d'heure, nous continuerons à faire le tour des diocèses, notamment à Tarbes et Lourdes. Saint-Jacques de Compostelle arrive aussi avec un très beau récit, la météo, mais juste avant, bien évidemment. Bonjour à toutes, bonjour à tous, le rappel des titres. Les cas de Covid se multiplient dans les écoles sur l'ancienne région Midi-Pyrénées. C'est le cas notamment à Toulouse, mais aussi à Aigues-Vives en Haute-Garonne et à Rodez en Aveyron, mais aussi au Mas d'Azil en Ariège et dans le Tarn-et-Garonne à Ibos. L'EHPAD Gloriane de Séverac d'Aveyron touché par l'épidémie. Des tests ont confirmé une cinquantaine de cas positifs au sein de l'établissement, soit 43 résidents et 11 salariés. Le musée Soulages de Rodez ferme jusqu'au 20 septembre. L'agence régionale de santé confirme plusieurs cas positifs de Covid-19 parmi des agents d'accueil et de surveillance du musée. La CFDT appelle les salariés du sous-traitant aéronautique assistance aéronautique et aérospatiale à débrayer aujourd'hui. 45% des effectifs sont menacés en France, à Colomiers près de Toulouse. 297 postes seraient supprimés, ainsi que 78 dans l'usine de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. En Haute-Garonne, les entreprises ne boudent pas l'apprentissage. Le secteur de l'aéronautique mis à part, les annonces faites par le gouvernement pour soutenir l'emploi et l'apprentissage semblent avoir rassuré les entreprises du département. La maladie de la langue bleue est de retour dans les Hautes-Pyrénées. Conséquence, les veaux ne peuvent plus être vendus à l'exportation et retournent dans les élevages. Les négociants demandent la prise en charge des vaccinations nécessaires pour vendre les troupeaux. Le préfet de la Haute-Garonne demande du renfort après une nouvelle fusillade hier matin à Toulouse. Le préfet de Haute-Garonne a demandé le renforcement de patrouilles et des contrôles dans les quartiers particulièrement touchés par les dernières fusillades et règlements de compte. Des pompiers de Haute-Garonne, du Tarn et de l'Ariège en renfort dans l'Aude. Ces pompiers sont engagés au profit du SDIS 11 pour une période de 48 heures minimum afin de renforcer le dispositif opérationnel préventif dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt.
La météo.
Pour cette fin d'après-midi, comme en début de semaine, il va faire particulièrement beau dans notre région Occitanie, du 26 degrés en moyenne. Demain matin, dans le Lot, un grand soleil. Le thermomètre affichera une température relativement fraîche, 16 degrés. Partout ailleurs, quelques nuages se baladeront dans notre partie d'Occitanie. Vous aurez là aussi du 16 degrés dans le Gers, près de Lourdes, 18 sur le Pont Neuf à Toulouse. L'après-midi, vous aurez des éclaircies dans l'ex-région Midi-Pyrénées, 26 degrés près de la grotte du Pêche-Merle, ainsi que dans le Tarn-et-Garonne et à Auch, près de Lourdes. Le mercure montera jusqu'à 24 degrés. Le seul endroit où il y aura de rares averses, ce sera dans l'Aveyron.
Présence à Aix-les-Thermes, 92.7.
Vous pouvez écouter vos émissions préférées sur notre site www.radioprésence.com et aussi votre interview de ce matin.
Bonjour François Chollet.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes professeur de médecine en neurologie à l'hôpital Purpan, ici à Toulouse. Vous êtes conseiller municipal délégué vice-président de Toulouse Métropole. Et donc fin juillet, vous avez été nommé par Jean-Luc Moudin, le maire de Toulouse, coordinateur en charge de la mobilisation de la mairie de Toulouse face à l'épidémie de Covid-19. Vous êtes un peu notre monsieur Covid ce matin, c'est avec cette casquette que vous êtes parmi nous. Alors, pour qu'on y voit clair, est-ce que vous pouvez nous préciser le périmètre de cette nouvelle fonction que vous avez endossée ?
La question est de savoir comment l'espace public, comment les responsabilités publiques d'une mairie peuvent s'accommoder d'une reprise de la diffusion du virus du Covid. Et donc, mon rôle, c'est d'essayer de voir comment on peut favoriser les mesures de protection vis-à-vis du virus et aussi maintenir le service public qui est rendu par la mairie de Toulouse.
Donc espace public, service public, donc on est dans ce périmètre-là, hein, dans cette situation-là. Là, dans nos locaux, par exemple, vous n'êtes pas là pour surveiller qui porte le masque, qui ne l'a pas. Hein.
Non, la question, n'est pas de surveiller qui porte le masque, la question est de sensibiliser et d'appeler à la responsabilité des uns et des autres. Je crois que, individuellement, nous avons tous une responsabilité vis-à-vis de la diffusion du Covid. C'est une vraie question. Nous avons des indicateurs qui nous montrent qu'ils se sont aggravés d'une façon très importante et très rapide dans le courant du mois d'août.
Vous allez nous les donner. Avant ça, peut-être une précision. Est-ce que chaque ville a son monsieur Covid, comme vous ?
Chaque ville est investie. Hein, ouais. Je ne sais pas s'il y a un monsieur Covid dans chaque ville, mais chaque municipalité est investie à des degrés divers selon la diffusion du virus, probablement, mais grosso modo, ce que l'on a vu au cours de ces dernières semaines, c'est que les mairies sont de plus en plus concernées, tout simplement parce qu'elles ont à maintenir la gestion de l'espace public et puis des services publics qu'elles rendent.
Vos interlocuteurs, c'est qui ? L'ARS, la préfecture ?
Oui, en fait, la préfecture est un élément clé et le préfet a un rôle capital dans la gestion de l'épidémie, puisque c'est lui qui prend les décisions. Les décisions fortes, les arrêtés sont des arrêtés préfectoraux. Il y a un deuxième partenaire qui est extrêmement important aussi, c'est l'Agence régionale de santé, qui donne quelque part la doctrine sanitaire et qui suit très régulièrement les indicateurs et donne une photographie de l'épidémie. Il y a aussi les professionnels de santé qui jouent un rôle très important, je pense aux biologistes en ce moment.
Au laboratoire.
En matière de dépistage. Et puis, il y a tout un chacun qui est concerné et qui a une responsabilité dans cette...
Et donc, vous êtes le coordinateur un petit peu de tous ces services et vous mettez en musique tout ce petit monde.
En tout cas, j'essaye sous la direction de Jean-Luc Moudingue, du maire de Toulouse, de faire en sorte que les consignes, que les mesures, que les directives puissent être appliquées de façon harmonieuse sur le territoire de la ville. Oui.
Et alors, vous nous avez dit les indicateurs se sont considérablement aggravés. Est-ce que vous pouvez justement nous donner ce matin, au moment où nous parlons, une photographie de la situation de Toulouse au regard de l'épidémie de coronavirus ?
Il y a deux indicateurs qui sont relevés par l'ARS, qui sont l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants, et puis le taux de positivité parmi les prélèvements. Et ces deux indicateurs sont des indicateurs qui ont augmenté de façon très importante depuis la fin du mois de juillet et tout au long du mois d'août jusqu'à maintenant. En clair, la cote d'alerte qui est de 50 nouveaux cas pour 100 000 habitants chaque semaine est une cote d'alerte qui est largement dépassée chez nous.
Elle
est à plus de 70 et elle a été largement dépassée très précocement par rapport à d'autres villes.
Ça, c'est le taux d'incidence. Le taux de positivité, lui, c'est ça mesure le nombre de personnes positives au Covid sur le nombre de personnes testées, hein, c'est ça ?
Absolument. Et le taux de positivité qui était aux alentours de 1%, un patient sur 100 testés était positif à la fin du mois de juillet et passé à plus de 4,5% aujourd'hui, ce qui fait que certes il y a plus de tests, mais il y a plus de positifs, donc il y a plus de gens qui sont victimes de l'infection.
Oui, parce que c'est ce qu'on a dit à un moment donné, hein, évidemment qu'il y a plus de personnes positives puisqu'il y a plus de tests. Vous le retoquez cette...
Absolument, non, il y a plus il y a plus de personnes positives, il y a plus de tests, il y a plus de tests positifs, donc il y a plus de malades. Oui. Mmh, mmh.
Est-ce qu'on observe une évolution ? On entend beaucoup de choses, hein, sur cette épidémie. Est-ce que on a parlé d'une mutation du virus ? Est-ce que vous observez un profil différent des personnes malades ?
Alors, je ne pense pas que l'on puisse dire. Les scientifiques réfutent cette hypothèse-là. Le virus n'a pas muté. Les choses sont quand même différentes. Elles sont différentes parce que la population qui est majoritairement touchée est une population jeune, et ça n'était pas le cas au mois de mars, lors du confinement. Et ensuite, les modalités de prise en charge des patients présentant des symptômes ont changé. Je crois que les médecins, les infectiologues, les réanimateurs ont fait des progrès dans la connaissance, même s'il n'y a pas de traitement spécifique. Je pense que les patients sont mieux soignés. On intube moins, en particulier, il y a moins recours à une ventilation artificielle, et donc, ou plus tardivement. Et donc, il y a eu des progrès effectués là-dedans. Donc, les profils sont différents, c'est plus le même moment, on n'est plus en temps de confinement, on est en déconfinement. Et donc, l'épidémie a un profil qui est sensiblement différent, mais le virus, c'est le même.
Et alors, comment est-ce que vous expliquez que Toulouse, que la Haute-Garonne, et puis plus largement l'Occitanie, qui n'étaient pas ou très peu touchés au plus fort de l'épidémie, soient, en l'espace d'un été, passés à ce niveau d'alerte? Les Français ne sont pas tous venus en vacances à Toulouse, si?
Non, mais je pense qu'on a observé, vous l'avez sûrement observé vous-même, dans le courant du mois de juillet, à la faveur de l'été, un relâchement des pratiques.
Comme partout.
Oui, comme partout, mais plus spécifiquement ici, puisque on était plus détendu, parce que moins marqué par ce qui s'était passé au mois de février, de mars et d'avril.
Moins échaudé.
Et peut-être moins échaudé. On a parfois recommencé à se serrer la main. On a moins maîtrisé les gestes barrières. On a tous vu des vidéos de fêtes et de soirées festives dans lesquelles les gestes barrières, à l'évidence, n'étaient pas effectifs.
Alors, votre mission, François Chollet, je rappelle à ceux qui nous rejoindraient que vous êtes le monsieur Covid ici à Toulouse, vous êtes le coordinateur des actions de la mairie de Toulouse face au Covid. Vous avez été nommé à ce poste fin juillet par Jean-Luc Moudenc. Votre mission, évidemment, c'est donc de prévenir le virus. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Quels sont les dispositifs mis en place pour faire face?
Alors, il y a deux choses. La première chose, ce sont les mesures barrières. On en a parlé des mesures barrières, mais je crois qu'il faut bien indiquer que ces mesures sont des mesures efficaces.
Du bon sens.
En particulier, c'est du bon sens, mais elles sont efficaces, mais elles sont souvent prises en défaut. Donc, les mesures barrières, c'est la distanciation, c'est le port du masque. C'est le lavage des mains qui fait que, on prévient la diffusion des virus. Et le port du masque qui a été décidé sur l'ensemble de la ville va dans ce sens. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le dépistage de masse, où l'idée, c'est de dépister les gens au maximum de façon à identifier les cas, à isoler les gens positifs de façon à ce qu'ils ne puissent pas contaminer les autres.
Alors, dépistage de masse, que ça veut dire qu'ici, à Toulouse, vous avez réouvert des centres de dépistage? Je crois qu'il y a 8 drives.
Alors oui, effectivement, ça a été une des actions qui a été conduite dans le courant du mois d'août, en partenariat avec l'ARS, la préfecture et aussi les biologistes, publics et privés. Nous avons ouvert d'abord 4 drives, puis à la fin du mois d'août, 2 supplémentaires, plus 1 qui est un drive qui nocturne à 21h le jeudi à Saint-Pierre, avec une cible sur
jeune.
La population jeune, effectivement, plus un drive qui existait déjà, qui était le premier et qui est celui du CHU.
Alors, on parle beaucoup d'engorgement tout de même. C'est difficile aujourd'hui d'aller se faire dépister, tester à Toulouse. Qu'est-ce que vous dites à ça?
Alors, c'est vrai que c'est une performance remarquable. J'ai pas les chiffres récents, mais je peux vous dire que par exemple, entre le 7 août et le 21 août, on a fait 12 000 tests. Ce qui est considérable sur ces drives. Et c'est un apport de plus à la prise en charge du virus. Alors c'est vrai que le succès est là, c'est vrai qu'il existe des difficultés de la part des biologistes pour faire face. Je pense que malgré tout, la logistique est une logistique qui, certes, peut être améliorée, mais qui reste quand même correct.
Est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut retrouver tous les lieux de dépistage? Ça serait bien de le donner dans ces cas-là.
Oh, c'est le site internet de la mairie, de la mairie de Toulouse. Vous l'avez aussi sur le site de l'ARS.
Voilà, retrouver tous les lieux. Vous pouvez aller vous dépister avec les indications afférentes. À propos du masque, François Chollet, Toulouse, on l'a dit, a été la première ville, je crois, en France à le rendre obligatoire. C'est de 7h à 3h du matin. Alors évidemment, certains en contestent la pertinence, notamment en milieu ouvert. C'est pas mal vos adversaires politiques, hein, qui sont d'ailleurs dans leur rôle, mais aussi des médecins, et je pense notamment à un médecin toulousain, Olivier Dessoir, qui a commis une tribune assez remarquée dans laquelle il dit qu'il ne faut pas faire de ce virus un terroriste. On s'y perd un peu tout de même, quand même, non ?
Je crois que, à part quelques exceptions que vous mentionnez, personne ne conteste...
En milieu ouvert.
Personne ne conteste l'efficacité du masque. Il s'agit d'une mesure barrière. En milieu ouvert, en milieu fermé, cette mesure est efficace. Et cette mesure prévient le moment d'inattention où vous vous penchez sur l'épaule de quelqu'un en milieu ouvert. Et où, si vous n'aviez pas de masque et que vous êtes positif, vous le contamineriez. Donc le masque est un dispositif efficace. Ça ne peut pas être remis en cause.
Fermez le banc.
Ensuite, certainement, je pense que ça ne peut pas être discuté. Ensuite, un mot peut-être sur les mesures, sur l'arrêté préfectoral de port du masque. Si vous avez suivi les choses, il y a eu deux arrêtés. Le premier arrêté concernait uniquement quelques lieux de Toulouse. C'était la place Saint-Pierre, les bords de Garonne, qui étaient des lieux fréquentés. Et puis, très vite, on s'est aperçu qu'on allait passer à côté de la question, tout simplement parce que la vitesse avec laquelle grimpaient les indicateurs et s'aggravaient les indicateurs était colossale. Et donc, c'est là qu'il a fallu prendre une mesure qui est une mesure qui a été la première, effectivement, sur le territoire national, mais qui est une mesure assez audible, finalement, et plutôt bien respectée.
Et d'ailleurs, les autres villes vous ont emboîté le pas. Hein.
Exactement. Plutôt bien respecté, qui fait que sur le plan de la santé publique, cette mesure de protection est effective.
François Chollet, vous évoluez tout de même sur une ligne de crête compliquée. Hein. La semaine dernière à Toulouse, il y avait la Grande Braderie, un cassoulet géant samedi soir, place du Capitole. Compliqué quand même à tenir. C'est quoi ce message, le message que vous nous donnez ce matin? C'est on continue de vivre en faisant attention, c'est ça?
Ah oui, il est très clair ce message. Quelle est la règle? La règle, c'est qu'à partir du moment où une assemblée ou un événement de plus de 10 personnes est réalisé, la préfecture doit être prévenue et les règles barrières doivent être édictées. Dans la mesure où les règles barrières, sous la responsabilité de l'organisateur, sont en accord avec la doctrine sanitaire, il n'y a pas de raison d'arrêter de vivre et de supprimer ces événements. Ça a été le cas pour la braderie, ça a été le cas pour le cassoulet géant que vous êtes. Les règles barrières ont été respectées.
Un dernier mot, François Chollet, ce week-end, une rumeur folle, ici à Toulouse, a couru sur la fermeture des bars à 23h. Jean-Luc Moudenc l'a finalement infirmé. Est-ce qu'une mesure de confinement local fait partie de vos hypothèses de travail? Ça sera ma dernière question.
Non, je pense qu'il faut vraiment tout faire pour éviter le confinement. C'est pour ça que...
Mais ça fait partie de vos hypothèses,
il faut tout faire pour éviter le confinement. Le masque, le port du masque, c'est une forme de confinement personnel, quelque part. Je pense qu'il faut essayer vraiment d'éviter le reconfinement. Et c'est pour ça que les mesures barrières, le dépistage de masse sont des atouts considérables. Nous allons voir comment évoluent nos indicateurs au cours des semaines qui viennent.
Un grand merci à vous, François Chollet. Vous êtes le coordinateur en charge de la mobilisation de la mairie de Toulouse face au Covid. On a bien compris la situation ce matin. Merci à vous.
Merci.
Pour arrêter de tourner dans deux minutes, Emmanuel Pellat arrive pour l'émission Église Actualité.
Je tourne à en être étourdi. Je reviens, je retourne à mes planches chéries. Il y a des mains qui s'agitent, il y a des paumes qui crient. La lumière m'invite, la pénombre est remplie. Je me plante comme une fleur, je suis prête à grandir, à m'exhiber le cœur, à me laisser cueillir. J'ai apporté des strophes, à vous de les corriger. Allez, soyez mon prof. Je vous tends mon cahier. Je vous prête mes crayons, qu'ils soient feutres ou pastels. Allons-y, colorions comme à la maternelle. Il y a déjà des rayons qui nous tombent des lampes. On peut tracer des ronds sur chaque feu de la rampe. Dessinons des soleils dans chaque coin de nos ciels. On fera des merveilles, la soirée sera belle. Peu importe notre âge, on est tous écoliers. Il faut tourner des pages, réapprendre à voler. Je tourne à en être étourdi. Je reviens, je retourne à mes planches chéries. Je vous remets mes chansons comme des feuilles d'examen. J'aurai jamais tout bon, je ferai jamais tout bien. Mais s'il y a une leçon que j'ai fini par apprendre, c'est que ça prend 100% dans le plaisir qu'on va prendre à tenter de notre mieux, sans se comparer aux autres, d'être fier et heureux dans une vie. Je tourne, 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 je tourne.
Présence à Montrégio, 94.1.
Église Actualité, Emmanuel Pellat.
Bonjour, c'est Emmanuel Pellat, producteur de l'émission Vivante Église. Aujourd'hui, comme événement de la vie chrétienne des jours qui viennent, je vous propose ce jeudi 10 septembre à Lourdes, le Centre Assomption organise la retraite sur la terre comme au ciel, aller-retour de la terre au ciel à partir de la Bible, prêché par le père Lavigne, dominicain. Pour tout renseignement, un site internet www.assomption-lourdes.com. Ce samedi 12 septembre, à Quelmont, le diocèse de Rodez organise une journée diocésaine de la vie consacrée. Rendez-vous ce samedi 12 septembre, dès 10h15, à la basilique Notre-Dame de Seignac, à Quelmont. Ce samedi 12 septembre également, à Toulouse, le service des pèlerinages et la pastorale des réalités du tourisme et des loisirs organise une journée mariale. Au programme, temps de prière et de pèlerinage, conférences sur le thème Notre-Dame de la Dorade hier et aujourd'hui. Rendez-vous ce samedi 12 septembre dès 10h15 à l'église Notre-Dame de la Dorade à Toulouse. Ce samedi 12 septembre, toujours à Toulouse également, le groupe de prière toulousain Saint-Louis de France organise un rosaire pour la France, son rosaire mensuel. Rendez-vous ce samedi 12 septembre dès 14h à l'église Notre-Dame de la Dalbade à Toulouse. Ce samedi 12 septembre, toujours à Toulouse, toujours, le groupe de prière Padre Pio propose sa réunion mensuelle de rentrée. Rendez-vous ce samedi à 15h au couvent des Carmes à Toulouse. Enfin, ce dimanche 13 septembre à Cahors, le diocèse de Cahors propose de venir participer à l'ordination diaconale de Xavier d'Argejean par Mgr Laurent Camiade, évêque de Cahors. Rendez-vous à 16h à l'abbatiale Saint-Sauveur à Figeac.
Retrouvez Église Actualité sur le web en tapant www.radioprésence.com. Radio Présence à Auch, 89.6.
À midi 22, l'essentiel de l'actualité avec Rémi Souloumiac et Corinne Saint-Félix.
Les cas de Covid se multiplient dans les écoles sur l'ancienne région Midi-Pyrénées, Corinne.
C'est le cas notamment à Toulouse, mais aussi à Aiguevive, en Haute-Garonne et à Rodez, en Aveyron. Pas d'école non plus au Mas d'Asile, en Ariège. Pour la vingtaine d'élèves de la classe de CM2, un autre cas a été confirmé à l'école d'Ibos dans le Tarn-et-Garonne. Les personnes identifiées contact à risque, soit 33 élèves, deux professeurs des écoles et une ADSEM, ne pourront revenir dans l'établissement qu'à l'issue d'un délai de 14 jours. L'EHPAD de Glorian de Séverac d'Aveyron touché par l'épidémie. 5 cas de Covid ont été confirmés. L'établissement accueille 75 résidents et emploie 63 personnes. Un dispositif de dépistage systématique a été organisé pour l'ensemble des résidents et des agents et 127 prélèvements ont été faits sur place dès samedi matin. Ces tests ont confirmé une cinquantaine de cas positifs au sein de l'établissement, soit 43 résidents et 11 salariés. Parmi eux, 2 personnes âgées ont été hospitalisées à Rodez dans un état stable.
La maladie de la langue bleue est de retour dans les Hautes-Pyrénées.
Âgés de 3 à 4 mois, les veaux sont habituellement vendus pour l'engraissement auprès d'éleveurs espagnols. Mais de plus en plus de bêtes sont positives à la fièvre catarrhale-ovine en expansion dans les Hautes-Pyrénées et départements limitrophes. Conséquence, les veaux ne peuvent plus être vendus à l'exportation et retournent dans les élevages. Le manque à gagner pour les négociants fragilise leur exploitation. Ils demandent la prise en charge des vaccinations nécessaires pour vendre les troupeaux.
Les salariés du sous-traitant aéronautique, assistance aéronautique et aérospatiale appelés à débrayer aujourd'hui.
Un plan social annoncé en juillet dernier prévoit la suppression de 719 postes dans l'entreprise sous-traitant aéronautique. L'entreprise est spécialisée dans les services sur site pour des clients tels qu'Airbus, Stelia, Safran et Dassault. 45% des effectifs sont menacés en France. À Colomiers, près de Toulouse, 297 postes seraient supprimés, ainsi que 78 dans l'usine de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Hautes-Pyrénées. Le préfet de la Haute-Garonne demande le renforcement des patrouilles de police. Quelques heures après une nouvelle fusillade dans les quartiers nord de Toulouse hier matin, fusillade qui a fait un mort et un blessé, le préfet de Haute-Garonne a demandé le renforcement de patrouilles et des contrôles dans les quartiers particulièrement touché par les dernières fusillades et règlements de compte. C'est la cinquième fusillade enregistrée dans la ville rose en l'espace d'un mois, la troisième mortelle. L'homme tué à Lalande est le sixième mort par balle depuis début juin à Toulouse.
Et enfin, des pompiers de Haute-Garonne, du Tarn et de l'Ariège en renfort dans l'Aude.
25 sapeurs-pompiers sont mobilisés pour prêter main forte aux équipes de Narbonne. Ils répondent à la demande du centre opérationnel de crise de la zone sud. Ces pompiers sont engagés au profit du SDIS-11 pour une période de 48 heures minimum afin de renforcer le dispositif opérationnel préventif dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt.
La météo. Pour cette fin d'après-midi, comme en début de semaine, il va faire particulièrement beau dans notre région Occitanie, du 26 degrés en moyenne. Demain matin, dans le Lot, un grand soleil. Le thermomètre affichera une température relativement fraîche, 16 degrés. Partout ailleurs, quelques nuages se baladeront dans notre partie d'Occitanie. Vous aurez là aussi du 16 degrés dans le Gers, près de Lourdes, 18 sur le Pont Neuf à Toulouse. L'après-midi, vous aurez des éclaircies dans l'ex-région Midi-Pyrénées, 26 degrés près de la grotte du Pêche-Merle, ainsi que dans le Tarn-et-Garonne et à Auch, près de Lourdes. Le mercure montera jusqu'à 24 degrés. Le seul endroit où il y aura de rares averses, ce sera dans l'Aveyron. Isabelle O'Neill vous accompagne pour le tour des diocèses et nous allons à Tarbes-et-Lourdes où vous nous écoutez sur le 90.6.
Anne-Rose Jankovic, qui est déléguée à la communication de Tarbes, du diocèse de Tarbes et Lourdes. Bonjour Anne-Rose.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous les auditeurs.
Est-ce que vous voyez les montagnes de là où vous trouvez Anne-Rose?
Exactement,
oh,
je vois le Montaigu et le Pic du Midi.
Quelle
voilà,
chance.
Pour les auditeurs bigourdants qui connaissent.
Quelle chance. Alors, on sort nos agendas. Qu'est-ce qu'on note sur nos agendas pour la quinzaine dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, Anne-Rose Jankovic?
Alors écoutez, moi je voulais vous parler de trois rendez-vous à retenir. Le premier, c'est aujourd'hui même, 8 septembre, nous célébrons la nativité de la Vierge Marie. Mmh. Alors Marie est la sainte patronne du diocèse de Tarbes-et-Lourdes et sainte patronne notamment de la cathédrale Notre-Dame de la Cède qui porte sa dédicace. Alors ce 8 septembre, eh bien, c'est la fête de la cathédrale, mais c'est la fête de tout le diocèse de Tarbes-et-Lourdes et de tous les diocésains par conséquent. Alors pour les personnes qui le souhaitent et qui souhaitent célébrer cet événement, deux propositions de messe ce soir à 18h30 en la cathédrale, à Tarbes donc, la cathédrale Notre-Dame de la Cède, 18h30. Et puis une seconde proposition, alors pour les personnes qui habitent plus près du secteur du Haut-Adour et en particulier plus précisément entre Bagnères de Bigorre et Tournaille, il y aura une messe célébrée dans la petite chapelle de Roumet, c'est sur la commune de Ciotat, et ce sera à 18h. Voilà pour le premier rendez-vous.
Eh bien, c'est bien noté. Deuxième.
Alors, le deuxième rendez-vous important à venir, c'est le pèlerinage du couronnement de la Vierge au sanctuaire Notre-Dame de Garaison. C'est un événement annuel qui a lieu depuis 1865 et qui peut intéresser bon nombre de nos auditeurs, Isabelle, puisque, vous le savez, le sanctuaire de Garaison, il est situé au carrefour de trois diocèses, celui de Toulouse, celui d'Auch et puis notre diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Le père Pascal Garçon, qui est recteur du sanctuaire, invite vraiment toutes les personnes, pas seulement les personnes du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, toutes les personnes à proximité qui le souhaitent, qui peuvent se libérer à participer à ce beau pèlerinage. Donc c'est dimanche prochain, le 13 septembre. Voilà, alors d'habitude le pèlerinage du couronnement a lieu sur deux jours, mais le contexte sanitaire là encore fait que il a fallu adapter le programme et donc ce pèlerinage du couronnement est concentré sur la journée du 13 septembre, dimanche 13 septembre, avec une messe en plein air à 10h30 qui sera présidée par Mgr Nicolas Brouvet, donc l'évêque du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, suivi d'un verre de l'amitié bien sûr, puis à 15h45 le chapelet, un temps d'adoration et la journée se terminera par les vêtres. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations qui concernent donc le pèlerinage du couronnement à Garaison, mais aussi toutes les actualités du sanctuaire de Garaison sur le site garaison.com/sanctuaire.
Dernier événement pour la route, Anne-Rose.
Alors, je termine avec un événement alors, qui n'a pas lieu dans l'immédiat, et ça va vous faire bondir, Isabelle, je suis désolée.
Ah non.
Mais qu'il est quand même impératif de noter dans les agendas dès à présent, si ce n'est pas déjà fait. Il s'agit du pèlerinage de la Bigorre à Lourdes, qui aura lieu du 16 au 19 octobre prochain. Alors, pourquoi en parler dès à présent ? Eh bien, c'est que beaucoup de Bigourdans s'inquiètent de savoir si le pèlerinage sera maintenu ou pas, vu le contexte. Alors oui, il y aura bien un rendez-vous pour les Bigourdans, mais évidemment avec des propositions différentes et puis un rythme nécessairement adapté au contexte sanitaire. Alors notez bien la date dans vos agendas, du 16 au 19 octobre prochain.
Eh bien, merci beaucoup Anne-Rose Jankovic. Pas de panique, donc les Bigourdins, le pèlerinage aura lieu. Tous ces événements sont à retrouver également sur le site de votre diocèse, sur le nôtre radioprésence.com. Et puis également, je rappelle qu'Église Actualité revient aujourd'hui à 12h30. Merci à vous.
Merci, bonne journée. Au revoir.
Pour la prochaine demi-heure, vous retrouverez dans 3 minutes votre chronique Saint-Jacques de Compostelle avec un très beau récit. L'homélie arrive avec Monseigneur Dupuis. Bien évidemment, le rappel des titres. Une belle demi-heure à être étourdi, un peu comme Camille sur votre radio chrétienne. Bon appétit en Occitanie.
Si tu as oublié tes clés ce matin, c'est que l'amour t'a pris sur son dos. Si tu as manqué, raté le train, c'est que l'amour s'est posé sur ton dos. L'étourderie des amoureux partis fait tourner la tête des tourtereaux. Les tourneaux qui perdit l'amour heureux l'a retrouvé au fond de mes yeux. Paradam, paradam. S'est posé sur mon dos. Si j'ai oublié le prix du pain, c'est que l'amour m'a prise sur son dos. L'étourderie des amoureux partis fait tourner la tête des tourtereaux. La perdrix qui perdit l'amour heureux l'a retrouvée au fond de tes yeux. Badada. Si tu as oublié le lendemain, si j'ai effacé l'air du refrain, tu as mélangé mais et juin. Si j'ai oublié de te demander ta main, l'étourderie des amoureux partis fait tourner la tête des tourtereaux. Qui est perdu, perdir l'amour heureux pour le retrouver au fond de mes yeux. Pour le retrouver au fond de tes yeux. Pour le retrouver au fond de nos yeux.
Chemin de Saint-Jacques. Une chronique proposée par Sébastien Pénary avec l'Agence des Chemins de Compostelle.
Bonjour. En cette rentrée, je vous recommande la lecture de la Balade des pèlerins d'Édith de la Héronnière. C'est un récit de son périple à la manière des voyageurs du Moyen-Âge. Ce classique de la littérature du pèlerinage vers Compostelle vient d'être heureusement réédité aux éditions Le Bruit du Temps. Été 77. Quatre jeunes gens, dont Édith de la Héronnière, marchent depuis Vézelay vers Saint-Jacques-de-Compostelle. L'inutilité de leur souffrance de pèlerin fait secouer des têtes. 2000 km à pied en 3 mois sur des chemins mangés souvent par les ronces. Son récit est né de cette expérience physique éprouvante, publiée une première fois en 1993 et à nouveau disponible. Dans sa préface, Édith de la Héronnière remet en perspective ce pèlerinage plus spirituel que religieux. Il y a 40 ans, aller à Compostelle depuis Vézelay pouvait, hormis les loups, les brigands, les aubergistes assassins, ressembler à un voyage de type médiéval. Les quatre pèlerins, l'autoritaire Tancrède, Roland le Tranquille, Édith et la New-Yorkaise Zabel, ont défini des règles dès le début. Un long périple par lequel ils quittaient leur vie sociale et professionnelle, le refus de tout secours motorisé, et une solidarité qui consistait à ne jamais s'abandonner quoi qu'il arrive. Quand Édith tombe à terre, les deux garçons la porteront à bras d'homme jusqu'à l'hôpital. Pas question d'accepter l'aide de n'automobilistes ni de se séparer, le pacte médiéval serait rompu. Si bien qu'après 3 jours, Édith est remise en selle brutalement par un Tancrède que l'impatience du départ a rendu méchant. « Avance !» crie le jeune Canadien. Aujourd'hui, on compte plus de 300 000 pèlerins par an. Il n'était que quelques poignées en 1977, et avec bien peu de confort. S'identifier aux marcheurs des temps reculés, avançant lourds de leurs péchés vers Santiago, n'est plus de guise. Pas d'expiation d'ailleurs chez la bande des quatre, qui, bien loin d'être angélique, se font la gueule, songent à fuir, se battent même. Édith de la Héronnière ne s'inscrit pas dans la lignée des récits pieux et sirupeux de pèlerinage où l'on se ressource, retrouve son vrai moi. Chez elle, il est question tout mêlé d'ampoule aux pieds, de désarroi, de soif intense, du saisissement devant la beauté des paysages et cette rugosité du récit secoue par son réalisme. Parfois, ils marchent la nuit et font d'étranges rencontres. Dans un village endormi, ils croisent un renard paniqué, attaché à une corde. L'anecdote est travaillée par le souvenir. Eux marchent dans cette liberté contrainte qu'ils se sont donnée. Un récit à savourer par préférence à bien des signatures à la mode dont on nous rebat médiatiquement les oreilles. Bonne lecture.
Radio Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
On continue cette pause repas avec la chanson des bénévoles. D'ailleurs, nous embrassons tous nos producteurs qui vous offrent vos émissions chaque jour sur Présence. Bon appétit si vous venez de vous mettre à table dans notre partie d'Occitanie.
Mes chaussures sont aussi pourries que celles des gens qui passent ici. Mon manteau n'est pas beaucoup plus neuf que celui du pauvre Rutebeuf. Moi, j'ai mal au dos comme tout le monde, des coups de blues et mes ondes d'ombre. On n'a pas trop mais on a du bol et nos vies chantent. On est bénévoles. Bienvenue dans ma vie.
Dans ma maison y'a ni plus ni moins, ni plus ni moins que chez le voisin.
Un peu plus d'amour à partager
et moins de temps devant la télé.
Je ne dis pas trop ce que je fais. L'humanité par ici c'est succès.
Pas de médaille ni d'auréole, on n'est pas des saints, juste des bénévoles.
Nos manteaux sont pas beaucoup plus neufs que celui du pauvre Rutebeuf.
Mais j'ai des amis, pas beaucoup mais des vrais. Et tant de sourires que d'autres n'ont jamais.
Bienvenue dans nos vies.
Bienvenue dans nos vies.
L'Évangile.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Gloire à toi, Seigneur.
Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Hezrom. Hezrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nazon. Nazon engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Hanon. Hanon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Elioud. Elioud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Que j'aurais voulu être prêtre pour prêcher sur la Sainte Vierge. Une seule fois m'aurait suffi pour dire tout ce que je pense à ce sujet. Frères et sœurs, Thérèse de l'Enfant Jésus, à qui nous devons cette confidence, n'aimez pas les discours rabâchés sur la Vierge Marie. Les prédicateurs de son temps ne tarissaient pas d'éloges sur les merveilles que le Seigneur fit pour elle, comme dit plus sobrement le Magnificat. Ils omettaient l'obscurité et l'humilité de sa vie de femme et de mère, qui nous la rendent si proche et si digne d'être imitée. Frères et sœurs, très singulièrement, pour célébrer la naissance de Marie, la liturgie a choisi un texte évangélique qui parle principalement de Saint Joseph. Un personnage silencieux et discret. De lui, on ne connaît aucune parole, aucun enseignement ni conseil donné à Jésus ou à sa mère. Les textes nous apprennent seulement qu'il était un homme juste, un humble serviteur de la loi, un fidèle observant des coutumes juives. Ce n'est pas si peu, mais c'est très abrégé. Fils de David selon la chair, Matthieu le rappelle, Joseph est tout autant fils d'Abraham selon la foi. Il a acquiescé à la réalité mystérieuse que l'ange lui a découverte en songe, réalité que le prophète Michée avait annoncé de façon énigmatique, en évoquant le jour où enfantera celle qui doit enfanter. Mais alors qu'Abraham accepta de sacrifier son fils Isaac à la volonté de Dieu, Joseph s'est sacrifié lui-même, fidèle aux instructions reçues de l'ange. Il a accepté l'enfant de Marie comme son propre fils. Il lui a donné le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Le père Maurice Zindel estimait que Joseph a connu le plus grand drame d'amour qu'ait jamais vécu un homme. Un songe l'a averti, une annonce lui a été faite par un ange, comme à Marie. Mais avant ce songe et avant cette annonce, combien de questions sans réponse, combien de questions refoulées. Profondément, saint Bernard établit un parallèle entre l'apôtre Thomas et saint Joseph. De même que Thomas, en doutant et en exigeant de toucher de ses mains les plaies de Jésus, est devenu le plus sûr témoin de la résurrection du Seigneur, de même Joseph, en se fiançant à Marie et en examinant plus attentivement sa manière de vivre pendant le temps où elle était confiée à sa garde, devint le témoin le plus fidèle de sa chasteté. Frères et sœurs, dans une confiance totale en la parole de Dieu, prend sa source la joie du croyant. L'antienne d'ouverture de la messe de ce jour invite à la célébrer. Célébrons dans la joie la naissance de la Vierge Marie. Le psalmiste chante « J'exulterai de joie en Dieu, mon Seigneur ». Oui, frères et sœurs, cette joie puise sa source dans la foi, dans la certitude émerveillée que nous sommes aimés de Dieu. Chez Marie comme chez Élisabeth, elle jaillit dans un acte de reconnaissance envers la parole de Dieu. Dommage que l'iconographie chrétienne ne représente jamais un Joseph exubérant de joie. Frères et sœurs, en ces temps de grandes inquiétudes sanitaires, économiques, sociales, le conseil de Ben Sira le sage de ne pas abandonner notre âme au chagrin vient à point. Une joie sereine enclenche une disposition, une manière d'être et de se construire. Un père dominicain confiait que, bien qu'éprouvé par les nouvelles qu'il recevait sur la déchristianisation, il demeurait plus sensible aux évidentes actions de l'Esprit-Saint. Ce qui naît ou renaît, disait-il, retient davantage mon attention que ce qui meurt. Frères et sœurs, réagir de la sorte, ce n'est pas recourir à la méthode Coué. Pourquoi perdrions-nous la sérénité puisque le Dieu de l'histoire, de la grande et de la petite histoire, est parmi nous, avec nous, comme l'enseigne la généalogie que Matthieu place au tout début de son évangile en guise de prologue. Texte fastidieux pour nous, auquel nous ne prêtons guère attention, et pourtant, il n'est pas dépourvu de contenu spirituel. Dans cette énumération où la formule « un tel engendre un tel », où la formule se répète et se veut récurrente, une rupture se produit. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Il n'est pas dit que Joseph engendra Jésus. Commentant ce texte, Benoît XVI note combien il met en valeur le dessein de Dieu en faisant naître de l'humble Vierge de Nazareth le plus beau fruit de son œuvre créatrice et rédemptrice. Une œuvre qui, dans l'histoire, fait de la créature le collaborateur du dessein de Dieu. À preuve également la filiation davidique de l'enfant, elle n'est authentifiée que par l'obéissance de Joseph à l'ange. Il exécutera ce qui lui est prescrit. Il adoptera l'enfant, lui conférant les pleins droits de fils. Le nom qu'il lui donne exprime l'au-delà de cette filiation adoptive. Frères et sœurs, sur la filiation naturelle de la Vierge Marie, sur ses aïeux, sur ses parents, les évangiles ne disent mot. Son père et sa mère, nous ne les connaissons que grâce aux évangiles apocryphes, des textes rédigés au IIe siècle, et spécialement par le protévangile de Jacques. Joachim et Anne font partie de la cohorte des sages dont l'Écriture sainte fait l'éloge. Un homme et une femme de bien, pieux, fidèles observants de la loi. Depuis le retour de l'exil, ils attendaient plein d'espoir la venue du Messie. Chaque jour, ils se rendaient au temple. C'est à Anne et à Joachim, des inconnus quasiment, que l'on doit d'avoir façonné celle qui allait devenir la mère de Jésus, celle qui, dans son cœur, garderait tant de choses inouïes. Frères et sœurs, dans la somme théologique, saint Thomas d'Aquin invite à ne pas avoir peur des grandes choses, mais à tenir compte aussi des petites. Car Dieu, disait-il, se trouve aussi dans les petites choses, dans nos petites choses. Frères et sœurs, en ce jour qui commémore la naissance de Marie, en ces temps de morosité et d'inquiétude, apprenons à faire la part des unes et des autres avec un regard de foi. Comme Marie, comme Joseph, mettons-nous à notre petite mesure au service du Seigneur pour collaborer fidèlement joyeux à ses desseins. Frères et sœurs, reprenons notre élan en cette nativité de la Vierge Marie. Amen.
Baby, I love you less and less because of what you've done to me. Baby, I love you less and less because of what you've done to me. Le ciel se couche sur ta peau de louve. Les oies sont rouges, ta mémoire est trouble. On a vu l'Espagne, la rive et les larmes. L'amour a ses failles et ses cœurs nomades. Baby, I love you less and less because of what you've done to me. Baby, I love you less and less because of what you've done.
Don't let me go. I need your soul, baby, just don't let me go.
Se promettre ma douce, l'enfer et ses sources, où les vipères rousses se meuvent en nos troubles. Je deviens sauvage, décharne pour que Paris s'enflamme de nos retrouvailles. Baby, I love you.
Radio Présence à Argelès-Gazost, 91.9.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, le rappel des titres. Les cas de Covid se multiplient dans les écoles sur l'ancienne région Midi-Pyrénées. C'est le cas notamment à Toulouse, mais aussi à Aigues-Vives en Haute-Garonne et à Rodez en Aveyron, mais aussi au Mas d'Azil en Ariège et dans le Tarn-et-Garonne à Ibos. L'EHPAD Gloriane de Séverac d'Aveyron, touché par l'épidémie. Des tests ont confirmé une cinquantaine de cas positifs au sein de l'établissement, soit 43 résidents et 11 salariés. Le musée Soulages de Rodez ferme jusqu'au 20 septembre. L'agence régionale de santé confirme plusieurs cas positifs de Covid-19 parmi des agents d'accueil et de surveillance du musée. La CFDT appelle les salariés du sous-traitant aéronautique, assistance aéronautique et aérospatiale à débrayer aujourd'hui. 45% des effectifs sont menacés en France, à Colomiers près de Toulouse. 297 postes seraient supprimés, ainsi que 78 dans l'usine de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. En Haute-Garonne, les entreprises ne boudent pas l'apprentissage. Le secteur de l'aéronautique, mis à part les annonces faites par le gouvernement pour soutenir l'emploi et l'apprentissage, semble avoir rassuré les entreprises du département. La maladie de la langue bleue est de retour dans les Hautes-Pyrénées. Conséquence, les veaux ne peuvent plus être vendus à l'exportation et retournent dans les élevages. Les négociants demandent la prise en charge des vaccinations nécessaires pour vendre les troupeaux. Le préfet de la Haute-Garonne demande du renfort après une nouvelle fusillade hier matin à Toulouse. Le préfet de Haute-Garonne a demandé le renforcement de patrouilles et des contrôles dans les quartiers particulièrement touchés par les dernières fusillades et règlements de compte. Des pompiers de Haute-Garonne, du Tarn et de l'Ariège en renfort dans l'Aude. Ces pompiers sont engagés au profit du SDIS 11 pour une période de 48 heures minimum afin de renforcer le dispositif opérationnel préventif dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt. Un rapide coup d'œil sur votre météo pour cette fin d'après-midi. Il fera beau, du 26 degrés en moyenne dans notre région. Demain matin, grand soleil. Il fera frais, 16 degrés dans le Lot. Quelques nuages dans le Gers, près de Lourdes, 18 à Toulouse. L'après-midi, vous aurez des éclaircies, 26 degrés à Cahors, ainsi que dans le Tarn-et-Garonne et à Auch. Près de Lourdes, le mercure montera jusqu'à 24 degrés, de rares averses dans l'Aveyron. Je vous laisse avec votre journal de Radio Vatican. Bel après-midi.
Radio Présence dans le Comminges, 94.1.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Vatican.
Ni coupable, ni corps. Deux ans après son assassinat, la